Il y a l'un des mois, nous sommes très, très heureux d'être ici. C'est comme si on revenait au bercail. C'est chez nous ici, on est nés à Trois-Rivières, tous les deux, et vous allez en entendre parler un petit peu. Et je trouve que vous avez un bon thème pour la conférence, c'est ce verset dans Actes 13, 47. « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations » pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, j'aimerais témoigner en donnant toute la gloire à Dieu. N'est-ce pas que c'est à lui qu'il faut donner la gloire pour toutes choses? C'est avec modestie que je désire témoigner de ce que Dieu a accompli dans notre vie, dans la vie de mon épouse et dans la vie de l'Église ici, parce que vous allez voir, c'est bon pour l'Assemblée, vous allez avoir un petit cours, un résumé historique des débuts de l'Église ici, en même temps. Ce que j'aimerais faire, c'est de présenter un profil, en même temps que ce soit un défi, surtout pour les jeunes. J'avais votre âge lorsque le Seigneur m'a appelé à aller à son service. Et peut-être avec ce profil que je vais donner, vous allez faire une comparaison. C'est certain que les choses vont être différentes pour vous, comme elles l'ont été pour moi. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des grandes lignes que Dieu met devant vous et qu'on entreprend pour son service. Si vous entendez l'appel de Dieu, s'il vous plaît, répondez. Ça vous donne une vie remplie de joie, de bonheur. Malgré toutes les épreuves, les défis, les chutes, tout ce qui peut arriver, le Seigneur est avec vous, va vous diriger, vous vous êtes donné à lui, à son œuvre. Il vous a appelé, vous avez répondu, vous êtes dans sa volonté. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sent que déjà que le Seigneur l'appelle? Dans un article intitulé « Québec est-il un champ missionnaire? », le journal Christian Week, d'il y a environ 7 ans, a écrit ceci. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les statistiques, il semble étrange d'envisager une province canadienne comme étant un grand champ de mission. Mais selon Operation World, le Québec est parmi les moins évangélisés de l'hémisphère occidental. Les chrétiens évangéliques représentent à peine 0,5% de la population comparativement à 7,7% dans le reste du Canada. Plusieurs des champs de mission ont beaucoup plus de pourcentage. La Colombie, 3,1%, la Chine, 5%. Nigérie, 16 % Sur 4 mariages au Québec, un mariage se termine par un divorce comparativement 1 sur 10 au Canada. Et le Québec a le plus haut taux de suicide au Canada. Mon épouse et moi sommes tous les deux natifs de Trois-Rivières. Ça, c'est la rue des Forges, pour ceux qui ne sont pas familiers. Et tous deux, nous avons été baptisés, confirmés, dans la religion catholique, Yolande, jusqu'à l'âge de 15 ans. Je me souviens lorsqu'elle est entrée ici dans l'Assemblée. J'ai le même âge qu'elle et je ne l'ai pas trop remarqué cette fois-là. Je pensais qu'elle était, vous savez, un garçon de 15 ans puis une fille de 15 ans, là, c'est comme pas le même âge. Mais quelques années par là, elle m'a tombé dans l'œil et nous sommes mariés ici à l'Assemblée. Moi, c'était à l'âge de 11 ans que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Yolande est la deuxième enfant d'une famille de 4 et je suis l'aîné d'une famille de 6. Nous nous sommes mariés en 1957 ici à l'Assemblée. Nous avons eu 3 beaux enfants, Alain, Nicole et France. Et je suis allé à l'école Saint-Paul de Trois-Rivières et à l'âge de 10 ans, j'étais croisé. Je voulais plaire à Dieu de tout mon cœur. Il y en a qui veulent être pompiers en grandissant. Moi, je voulais être un saint. Je voulais porter mon nom. Est-ce que je le suis devenu? Ben, demandez à mon épouse, mes enfants, on va peut-être avoir une autre idée. Mais parce que j'ai mis ma confiance en Jésus, comme vous qui avez mis votre confiance en Jésus, si vous l'avez fait, vous êtes appelé saint. N'est-ce pas, d'après l'Écriture? Très jeune, je pratiquais déjà ma religion très sérieusement. J'allais à la messe à tous les jours. à un moment donné. J'allais aussi deux fois par jour parce que j'allais aux vêpres. Vous vous rappelez des vêpres? Il y en a qui connaissent pas ça, les vêpres. À cause de mon nom, je voulais porter mon nom. Je voulais devenir un saint, comme j'ai dit. Puis en effet, j'ai découvert beaucoup, beaucoup plus tard, comme vous savez probablement, les Saint-Louis ont leur nom de Louis IX, roi de France, au 12e siècle. Et j'ai appris beaucoup plus tard que vers 1250, sous le règne de Louis IX, Saint-Louis, paraît la première Bible publiée en français. C'est intéressant. Traduite du latin par des professeurs de l'Université de Paris. Mais Louis IX est surtout connu à cause de ses croisades pour combattre l'islam en Palestine. Ça n'a pas changé, hein? Ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, mais déjà à l'âge de 5 ans, en 1940, je me souviens d'avoir prié pour la première fois de ma chambre d'hôpital. J'ai été hospitalisé pendant 3 mois à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. J'ai été séparé de mes parents pendant tout ce temps-là. L'hôpital était au coin de Bellechasse et Saint-Denis, ceux qui se souviennent un peu, là, autrefois, l'hôpital Sainte-Justine était là. Et j'étais à peu près comme au 4e ou 5e étage. Et puis, je voyais passer les petits chars. J'étais juste au-dessus des lignes électriques. Je voyais les petits chars de ma chambre. Et là, j'ai prié pour la première fois, je me souviens. L'hôpital est aujourd'hui sur le chemin Côte-Sainte-Catherine à Montréal. À la maison, nous avions le chapelet en famille, après souper. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? À CKAC Montréal, il y en a qui lèvent la main. Et puis, on se mettait tous à genoux autour de la radio. Puis on récitait le chapelet. Mon père ne manquait jamais non plus la bénédiction paternelle au jour de l'an. Et en 1947, ça c'est vraiment l'année qui a tout bouleversé agréablement, merveilleusement, et l'année d'un grand changement dans ma vie et dans celle de ma famille. Je vous rappelle que c'est 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'époque de Mackenzie King, premier ministre du Canada, Maurice Duplessis, premier ministre du Québec, et le Papi XII à Rome. Et le fameux procès de Nuremberg, où l'on a jugé les criminels de guerre. J'entendais parler de sectes, des témoins de Jéhovah. On se méfiait des communistes, des protestants. Et la discipline à l'école était très sévère. C'était encore au temps de la strap. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la strap? Il y en a un qui a dit « yes », pour moi, il a goûté, lui. Et ce sont des religieux qui nous enseignaient à l'école. Un jour, ça frappe à la porte. Et puis, ça, c'était suite à l'envoi d'un traité qu'on offrait, le Nouveau Testament. Et vous avez à gauche, là, la copie originale que j'ai encore, le premier Nouveau Testament qui est rentré en 1947 ici à Trois-Rivières, chez nous. Et vous avez l'autre à côté qui est plus nouveau, là, ça ressemble à ce Nouveau Testament. Et le traité qui avait été envoyé, vous le connaissez peut-être, c'est les deux frères. Ça, c'est la copie originale aussi. Elle est jaunie, comme on voit, après tant d'années. Et un homme mesurant au moins 6 pieds s'est présenté à la porte. On n'est pas grand chez nous, ça nous impressionnait. Et ça, c'était tout de suite après l'heure du dîner. Je me préparais à partir pour aller à l'école après dîner. Et puis, je suis rentré à l'école un petit peu en retard ce midi-là parce que je voulais entendre ce que ce monsieur-là avait à dire. Et là, il venait de frapper à la 86e porte à Trois-Rivières. Et toutes les portes s'étaient fermées dans sa figure, dans sa face. Et là, il était sur le point de se décourager, de retourner d'où il venait. Lui, il était français, né à Marseille, en France. Et puis, ses parents sont déménagés à New York. Et quand il est devenu adulte, le Dr. Hill de Sherbrooke, que peut-être quelques-uns ont entendu parler, l'a rencontré, l'a encouragé à venir, travailler parmi les Québécois. Il est venu voir, mais c'était très, 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 très décourageant en 1947. Et puis, mon père l'a laissé rentrer. Et vous allez voir pourquoi mon père l'a laissé rentrer. Bien, mon père avait reçu le Nouveau Testament et puis il l'avait caché. Il avait lu les deux frères, le traité. J'espère que vous allez pouvoir le lire, vous décrocher une de ses copies. C'est très bon. Ça présente bien le salut. Il avait lu ça, mais il l'avait caché. Lui, il buvait, il sacrait, il avait une vie vraiment en désordre. Et puis, il allait à la messe, mais il disait, « Moi, ma place, ça va être l'enfer, parce que je suis tellement méchant. Je vais aller en enfer. Et je vais cacher ces choses-là. Je ne voudrais pas que ma famille soit touchée par ça, parce que dans ce temps-là, vous n'aviez pas le droit de le lire. Vous n'aviez pas le droit de lire la Bible. » C'était défendu parce qu'on disait, si vous la lisiez, vous perdiez la foi. Il dit, moi, je l'ai déjà pas mal perdu, alors je vais le lire. Alors, il lisait en cachette. Il lisait ça en cachette à tous les jours. Et puis, M. Boïda lui parlait. C'était M. Boïda, le missionnaire qui est venu. Et mon père et ma mère, je les vois encore dans ma mémoire. Je les vois partir à tous les dimanches avant notre conversion. Brotu, comme on dit, ils s'en vont au cinéma de Paris de Trois-Rivières regarder leur vedette, Fernandel. Mon père aimait beaucoup Fernandel, et puis il allait, quand il a entendu parler M. Boisdel, il avait le même accent que Fernandel. Alors, il l'a laissé rentrer, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce monsieur-là? Et puis, mais M. Boisdel répétait continuellement, et c'est ça qui a fait que mon père l'a réinvité, il disait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Je n'ai pas tout à fait l'accent marseillais, là, mais vous. Ce n'est pas moi qui le dis, qui disait, mais c'est Dieu qui le dit. Mon père, il dit, je ne sais pas ce que c'est que Dieu lui a dit, mais je vais le réinviter pour savoir ce que Dieu lui dit, pour en savoir davantage. Les réunions ont commencé chez nous, à la maison, à Trois-Rivières, au coin de Ducollège et Hertel, près de, en biais avec l'église Sainte-Cécile. Entre l'église Sainte-Cécile et l'école Saint-Paul. Et ma mère est la première qui a accepté le Seigneur le 8 mars 47. Et deux semaines plus tard, mon père. Et moi, je résistais toujours. Là, il y a eu des gros changements, des changements radicaux ont eu lieu après que ma mère et mon père eurent reçu le Christ comme leur sauveur personnel. Mes parents ont quitté l'église et des réunions d'évangile, puis le repas du Seigneur ont eu lieu chez nous, ont commencé dans la maison. Nous demeurions la porte à droite. À gauche, c'était les Leclerc qui demeuraient là. Roland Leclerc avait une émission à la télévision sur le cas pendant plusieurs années, ici à Trois-Rivières, vous devez le connaître, et notre émission jouait tout de suite après lui, après la sienne. Et je l'ai rencontré, il était bébé quand on demeurait là, et j'ai été à l'école avec ses frères. C'est une grosse famille, une très bonne famille. En passant, une très bonne famille religieuse, mais très, très, des gens formidables. Et un jour, le 10 avril 1947, lorsque j'avais 11 ans, j'étais seul à la maison, ce qui était très, très, très rare quand vous êtes 8 dans la maison, le père, la mère, les 6 enfants. J'ai pris le Nouveau Testament que mon père avait souligné et j'ai commencé à lire tranquillement tout ce qu'il avait souligné. Je me demandais pourquoi il avait souligné ça en rouge. Et comme vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a au moins 300 passages qui parlent de l'assurance du salut. Et là, je suis venu au Seigneur, tout simplement, en lisant ces versets-là qu'il avait soulignés. Et surtout, le verset, un des passages que mon père avait souligné, c'est Jean 3, 17. C'est comme si Jean 3, 16, je l'ai lu assez vite. Mais quand je suis arrivé à 3, 17, là, ça m'a touché. Parce qu'on me disait qu'on allait être jugé. Que nos œuvres, ce qu'on fait de bon, seraient mis dans une balance. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Et que si votre balance, vous aviez fait plus de bien, vous iriez au ciel. Si vous aviez fait le mal, vous seriez perdu. Ça, c'était ma religion, c'était ma croyance. Comme des millions de gens à travers le monde croient ça aujourd'hui. Mais le verset dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. Fernand, le monde, vous. Pour qu'il juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et cet autre verset, je continue à lire, puis rendu à la fin du chapitre, c'est écrit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Pas aura, il l'a à partir de maintenant. C'est une nouvelle naissance. « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Là, c'est comme si j'avais vu quelque chose de très, très lourd qui était suspendu au-dessus de ma tête. Je n'avais pas besoin d'être méchant ou plus méchant que je l'étais. La colère de Dieu était là tant que je ne croyais pas, que je ne mettais pas ma confiance totale en Jésus. Voyez-vous? C'est celui qui ne croit pas au Fils qui ne verra point la vie. Et là, j'ai mis ma confiance en Jésus ce jour-là, à cette heure-là, 11 heures du matin, un jeudi, le 10 avril 1947. Pas tout le monde peut se souvenir de la date, ce n'est pas ça l'important. C'est de le faire, à un moment donné. J'ai prié Dieu et j'ai dit au Seigneur, je te promets de ne pas le dire à personne. Je vais garder ce secret-là pour moi-même. C'est entre toi et moi, Dieu. Mais je n'avais pas encore tout lu dans l'Écriture, là. Et le même soir, M. Boyda et son épouse sont venus nous visiter. Et je dois vous dire que chez nous, mon père, il était menuisier un peu sur les bords. Il nous avait construit chacun une chaise berceuse. Il y en avait un pour le père, la mère, puis les 6 enfants, du plus jeune au plus âgé. Et puis ça, c'était avant le rock and roll, hein? Et là, on se berçait tous dans le salon. Quand M. Boyda a regardé, puis il a dit... Il me regardait souvent, puis il a dit, « Fernand, qu'est-ce qui t'arrive? » Je pense que les rayons de la joie du Seigneur sortaient de tous les pores de ma peau. Je n'arrivais pas à garder ce trésor pour moi-même. Et j'en parle encore aujourd'hui. Ah, c'est comme si c'était hier, à chaque jour, de pouvoir dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Et je lui ai confessé. Savez-vous ce qu'il a fait? Et ça, c'est très important pour vous qui conduisez des personnes au Seigneur. Il n'a pas dit, on va voir demain si tu es encore sauvé. Puis on va voir si tu vas porter des fruits la semaine prochaine. Puis on va voir si tu es chrétien dans un an. Savez-vous ce qu'il a fait? Il dit, mettons-nous à genoux tout de suite. Puis là, il a commencé à prier. Puis je me souviens de sa prière encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour la toute petite pierre vivante que tu viens de rajouter à ton Église. Et ça, ça m'a donné vraiment confiance que ce que j'avais fait, c'était la bonne chose. C'était un grand, là, qui priait comme ça. Et là, les persécutions ont commencé. La dénonciation en chair. Des pressions ont été exercées. Mon père a perdu son emploi à cause de l'Évangile. Un dimanche matin, la police est arrivée, a ouvert la porte chez nous, a saisi toutes les Bibles et les a emmenées au poste de police ou à l'évêché plutôt, pour les faire vérifier. Et j'ai dû être escorté à l'école, parce qu'on a changé d'école. On était persécuté à l'école française. Il n'y avait pas d'école protestante française à l'époque. C'était soit français ou anglais protestant. Il y avait une école Saint-Patrick, catholique, mais on ne pouvait pas aller là non plus. Ça aurait été la même chose. Alors, on nous a envoyé à l'école anglaise. Je remercie le Seigneur parce qu'on a appris l'anglais. On a eu les deux langues. Mais c'est là qu'on est allé. Le high school que vous voyez là présentement. Là, ce qui m'a vraiment fait beaucoup grandir dans la foi, ce sont les camps. Les camps de Batesville, c'est près de Wirt, ou près de Saint-Sauveur, au nord de Montréal, et aussi le camp Frontier Lodge et le camp Bethel. J'ai assisté au premier camp Bethel à l'âge de 14 ans. Et sur le train, en 1947, cet été-là où je suis allé à Batesville, j'étais la première fois que j'allais en train, et c'était à l'époque des chouchous, là, des gros engins noirs qui lancent de la poussière noire. Vous sortez du train tout picoté noir, là. Alors, moi, je voulais voir ce qu'il y avait à l'autre bout du train. Alors, j'ai laissé le groupe d'enfants, ce qui n'était pas permis de faire. Vous voyez, j'étais encore désobéissant après ma conversion. Vous voyez? Si on avait dit, si tu es obéissant à 100%, tu vas être sauvé, là. Vous voyez, ce n'était pas la chose à faire. Mais j'ai marché jusqu'à la fin du train. Et puis là, j'ai vu un homme, un prêtre, un jésuite, qui était en train de lire son bréviaire ou quelque chose sur le petit perron qu'il y avait complètement au bout. Là, hein? Vous vous rappelez les anciens trains? Et là, il m'a dit, « Mon garçon, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu chanter tantôt quand je suis passé dans... Est-ce que tu fais partie du groupe? » J'ai dit, « Oui. » Il dit, « T'es mieux de retourner là-bas. » Il dit, « Ils vont s'inquiéter. » Bien, il dit, avant que tu partes, il dit, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes? J'ai dit, c'est un camp chrétien. J'ai dit, moi, je suis sauvé depuis le 10 avril. Imaginez-vous l'air qu'il m'a fait quand j'ai dit ça. J'ai dit, parce que c'est écrit dans la parole que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. afin que quiconque, j'ai mis mon nom à quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, moi, il dit, j'ai fait toutes les études et je suis beaucoup plus avancé que toi. Toi, tu es en quelle année? J'ai dit, en cinquième année. Il dit, moi, il dit, j'ai passé ça, ça fait longtemps. Il dit, je suis dans ma 15e année à l'université en théologie. Puis il dit, je ne suis pas sûr d'aller au ciel. J'ai dit, aimeriez-vous être sûr d'aller au ciel? Et sur l'entrefait, Henri Dubois, qui était le responsable du groupe de jeunes auquel je faisais partie, est arrivé. Il me cherchait, il pensait que j'avais sauté par la fenêtre. Dans ce temps-là, on pouvait sauter par les fenêtres des trains. Alors, il m'a trouvé, puis là, il m'a grondé un peu. Le Jésus, il dit, je l'ai gardé un petit peu, je m'en excuse. Il dit, allez leur conduire avec les jeunes, puis s'il vous plaît, revenez me parler. Il a commencé à me parler de quelque chose qui m'intéresse. Alors, vous voyez, tout de suite, quelqu'un qui reçoit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne garde pas ça pour lui-même, il en parle. Et lorsque j'ai eu 16 ans, Jack Wortson, qui est le fondateur de Word of Life à Scroon Lake, New York, maintenant qui est associé aussi avec Bethel, l'Institut biblique Bethel, le fondateur est venu à Montréal dans une église sur la rue Sainte-Catherine. Et puis, j'étais avec un groupe de jeunes de l'Assemblée du Cap ici. J'avais à ce moment-là là, 16 ans. Et puis, il a fait un appel. Il dit, vous êtes peut-être un jeune sauvé. Vous avez donné votre vie au Seigneur, peut-être à l'école du dimanche ou chez vous, à la maison. Et puis, je vous demanderai de redonner, de reconsacrer votre vie à Dieu. Votre vie va compter pour quelque chose. Quand vous aurez fini de vivre, votre vie va avoir compté pour quelque chose pour Dieu. Voulez-vous lui vous avancer aujourd'hui, ce soir, c'était dans la soirée, et dire, oui, Seigneur, en m'avançant, je dis, peu importe à quoi tu m'appelles, Seigneur, pilote d'avion, boulanger, chômeur, je sais pas, peu importe, ou missionnaire, peu importe à quoi tu m'appelles, moi, je te donne ma vie. Et je suis parti du groupe de jeunes qui étaient là et je me suis avancé en avant. Je n'ai pas regardé si d'autres venaient ou non. C'est moi que le Seigneur appelait. Et je me suis avancé. Et j'ai vu d'autres jeunes qui ont fait la même chose. Et beaucoup plus tard, une trentaine d'années plus tard, j'ai revu une personne qui s'était avancée avec moi. Puis on a parlé de ce moment-là où j'ai donné ma vie au Seigneur pour aller là où il veut m'appeler. Mais avant d'aller à l'école biblique, parce qu'on voulait aller aussi étudier, j'ai travaillé 8 ans à la St. Lawrence Corporation, qui est devenue la Domtar, qui est aujourd'hui, je crois, la Kroger. Alors, j'ai travaillé là 8 ans, dans le département d'expédition, dans le bureau d'expédition de cette compagnie. Et j'ai beaucoup témoigné. Et mon patron, qui était très, très rebelle au Seigneur, est venu au Seigneur après 30 ans. Mais le témoignage a commencé là au bureau. Paul Émile Grenier, son nom, de Trois-Rivières. Il est maintenant avec le Seigneur. Il est venu me visiter à Bel-Oeil déjà, et puis il achetait des bibles à la caisse, pas des petites bibles, des grosses bibles, puis c'est ça qu'il donnait lui, en reconnaissance au Seigneur pour le salut qu'il avait. J'ai étudié aussi en dessin industriel, c'est mon métier, j'ai suivi des cours de photographie, je voyais que le Seigneur me préparait aussi pour l'avenir, et j'ai commencé à m'appliquer dans les activités de l'Assemblée ici. Ça, c'était l'Assemblée au début, après la cabane, parce qu'il y avait la cabane avant ça, ce qu'on appelait la cabane, hein? Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de toilette. Et on allait, c'était là, vous avez peut-être déjà vu des photos. Et j'ai chanté aussi dans le quatuor. Le plus jeune, le plus petit, là, c'est moi, ça. Le reconnaissez-vous, là, à droite. Et puis Yolande, vous la voyez, la deuxième à partir de la droite, en avant, là, c'est Yolande. Et aussi, j'ai été moniteur d'école du dimanche, ici à l'Assemblée. J'ai été surintendant d'école du dimanche. Et plus tard, vers l'âge de 21 ans, j'ai été diacre et secrétaire de l'Assemblée ici. Et nous avons créé, pendant que nous étions ici au Cap, ce qu'on a appelé à l'époque le groupe de jeunesse évangélique provinciale, dans les années 50. J'étais président, Fernand Petitler était secrétaire, puis Sam Kopiter, ce que d'autres personnes, des gens ici connaissent, était aussi un des conseillers. Il y avait Wally Bowes qui était trésorier. Et nous avons fait 3 ans d'études bibliques à Bethel de 59 à 62. Et dans les années 70, j'ai suivi des cours d'annonceurs de radio-télévision au Collège des annonceurs à Québec et d'autres cours semblables au début des années 80 à CKVL. Et ça, c'était toujours pour servir Dieu, pour aller dans la radio, dans la télévision, pour pouvoir servir le Seigneur d'une façon efficace. Et aussi à tous les peuples de la terre, à tous les francophones du monde. Et au cours des années, j'ai suivi des cours de peinture Et ça, c'était vraiment pour pouvoir ne pas perdre le contact avec les gens du monde. Quand j'étais dans le cours de peinture, c'était tous des inconvertis ou des non-chrétiens qui étaient là, et je pouvais les côtoyer, savoir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils racontaient. Et puis, ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec eux. Et dès 1962, les anciens de l'Assemblée ici nous ont recommandé à l'œuvre du Seigneur. Et depuis, nous ont soutenus dans la prière par leurs dons. Et nous avons eu, parce que nous n'avions pas, même en partant d'ici, nous n'avons jamais eu de revenus assurés. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le vivre par la foi. Il n'y a jamais personne qui a dit, « Fernand, vas-y, on va te soutenir à vie. » Non. Nous, on est partis comme ça. Puis quand ça allait mal, on se mettait à genoux, toute la famille, les cinq, on a trois enfants, on s'est mis à genoux tous les cinq. Puis on a dit, « Seigneur, on est dans le besoin. » On n'a jamais manqué d'un seul repas, même si des fois, on a mangé des toasts avec du beurre peanut, comme on l'appelle ça. Des fois, c'était juste ça, mais le Seigneur nous a gardés, nous a bénis. Et votre aide et votre soutien ici, lors du Verdelat en 1998, les gens ne nous ont pas appelés dans la région parce que tout le monde était touché par le Verdelat. Tout le monde avait de la misère. Il n'y a pas personne qui s'est informé si on allait bien, si on était 19 jours sans électricité, sans chauffage, sans rien de ça. Ce n'était pas vivable dans la maison, c'était froid. Mais ce sont les gens d'ici, c'est Doug Virgin et puis André Sanson qui nous ont appelés, qui nous ont donné de l'argent même et qui nous ont aussi fourni une génératrice pour avoir de l'électricité, du chauffage. Même il y a des gens qui venaient prendre des douches chez nous parce que on chauffe à l'huile et puis ça faisait partir la fournaise et tout. Alors pendant les premiers 20 ans, nous avons été actifs dans les camps à Bethel, à Frontier Lodge et aussi un petit camp, le camp de l'Arche. Tous des camps qui existent encore aujourd'hui. Et pendant une couple d'années, dans les années 64 et 65, nous sommes allés dans l'île du Prince-Édouard, à Cavendish, sur les plages, pour évangéliser. Je demandais aux enfants de faire une tribune, d'écrire des versets bibliques. Ils s'assoyaient, ils venaient avec leurs petites pelles. Des fois, on a eu jusqu'à une centaine de jeunes ou plus. Les parents venaient autour et là, on apportait l'Évangile avec des objets, avec des messages, avec des objets visuels pour que les jeunes soient intéressés. Donc, on a fait ça dans ces années-là. Ça a été vraiment des années formidables. Et dans les années 50, dans les dernières 50 années, l'une de nos principales activités d'évangélisation a été d'aider à la mise en place d'églises locales. Nous avons fait l'œuvre pionnière à Montmagny et avec l'aide toujours de frères et de sœurs, bien entendu, en 1962 et 10 ans plus tard à Longueuil, à l'Assemblée de Longueuil, et puis à Belleuil en 1980. Et l'Assemblée de Belleuil s'est beaucoup étalée dans la région, dans les assemblées, les églises autour. Et en 1999, nous sommes revenus à Longueuil, dans l'Assemblée, comme ancien, comme responsable des déjeuners de l'espoir et aussi des aînés dans l'Église locale, avec Serge Lafrance et Noël Aubu à Longueuil. Nous sommes dans la 48e année des émissions radiophoniques La foi vivifiante, un programme de radio hebdomadaire depuis 1963 jusqu'à nos jours, sans interruption. La première fois, Peter Foggan, qui venait de Vancouver, m'a demandé... Il a dit, « Fernand, peux-tu nous préparer 4 messages pour un poste à Montréal, un petit poste multilingue? » Quand j'étais rendu au 3e message, j'ai dit, « Qu'est-ce que je vais dire au 4e? » Mais là, on est rendu à 2500 quelque chose de messages de préparer sans interruption à toutes les semaines. J'ai été directeur des conseillers. On devait former 1600 conseillers en 1967 pour le pavillon Sermon de la science, à Terre des Hommes, et on me voit là ici en signant le livre d'or de la ville de Montréal avec Keith Price, le pavillon, et puis d'autres photos ici, peut-être vous êtes familier avec ces choses-là également. Nous avons produit des émissions à la télévision sur le câble de 72 à 97, 25 ans non-stop à la télévision, et ça c'était 4 fois par semaine. On produisait une émission par semaine, mais elle était diffusée 4 fois dans la région de Montréal, un peu partout au Québec, dans l'Ouest. Nous avons eu une équipe du tonnerre, dont Réal Pigeon, que le Seigneur a converti. Il était directeur technique à Radio-Canada. C'est pas n'importe quoi. Et puis, il est venu nous aider avec l'émission. Même le poste local souvent demandait des conseils. Nous avons eu Claude Séguin, ingénieur de son à TM, Julien Jeté, technicien à TM aussi, puis Gaétan Pigeon. Tous trois étaient, les trois derniers, là, étaient à TM. Et ils nous ont aidés avec cette émission-là. L'émission « Toute la Bible en parle » était diffusée un peu partout au Québec et à Winnipeg, à Edmonton, en Haïti. En Haïti, très, très longtemps aussi, ils réutilisaient toujours les mêmes choses, les mêmes émissions. Et à l'heure actuelle, « Toute la Bible en parle » est sur Internet. On reçoit 900 visiteurs par jour. Et seulement sur YouTube, on m'a dit dernièrement, juste YouTube, un moteur de recherche très puissant, on a atteint là maintenant 100 000 visiteurs. Et puis, ça, c'est sans parler des autres. Donc, l'Évangile est annoncé dans le monde entier. Et qu'est-ce que le Seigneur a promis quand l'Évangile serait prêché dans le monde entier? Plus fort que ça? Oui, il est à la veille. Croyez-vous qu'il va venir bientôt? Est-ce qu'il y en a qui ont hâte de le voir? Le témoignage de ce jeune homme-là, vous voyez avec la casquette bleue, là, lui, il y a une douzaine d'années, il écoutait l'émission « Toute la Bible en parle », puis il a été touché par la chanson d'un chanteur qui s'appelle Martin Paradis, qui est pasteur maintenant à Vancouver. Et il a été touché par l'émission, par son témoignage, il s'est converti. Puis, il y a à peu près 3 ou 4 ans, il m'a trouvé sur Internet, puis il a dit, « Je suis tellement reconnaissant de ce que Jésus a fait dans ma vie par l'émission. » Il dit, « Moi, je pourrais mettre votre émission, là, puis les prédications que vous donnez le dimanche dans les églises, les chapelles, là, on me voit en train de prêcher dans une assemblée. » Il dit, « Je vais mettre ça sur Internet pour que le monde entier l'entende. » Et c'est ce qui arrive à l'heure actuelle. J'ai rêvé à ça des fois, mais ça se réalise aujourd'hui. L'Évangile est prêché partout, et grâce à Patrice, qui est reconnaissant au Seigneur du salut qu'il a reçu, j'aurais pas pu le faire, mais le Seigneur se sert des personnes pour aider dans le ministère de cette façon-là. Depuis 1978, j'ai enregistré ma voix sur le Nouveau Testament, les psaumes et les proverbes, c'est la partie commerciale ce matin, là. Ceux qui veulent avoir les cassettes, vous pouvez les CD du Nouveau Testament et les psaumes et proverbes. Yolande a produit, elle, les promesses bibliques, 3 versions différentes de la Bible. C'est répandu dans le monde entier. C'est des petits versets. C'est des choses qu'elle avait soulignées dans sa Bible depuis l'âge de 15 ans. Et elle les a écrites sur des petits cartons. Et puis, vous pouvez mettre ça sur le réfrigérateur, les mémoriser, les lire. Vous allez être encouragé par ça, c'est certain. Et le message de réconfort au téléphone, ça dure depuis 1978. Et puis, c'est sans interruption, ça aussi. Jour et nuit, 7 jours, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez appeler à ce numéro-là à l'heure actuelle si vous avez un téléphone, là. Et puis, vous allez entendre le message de réconfort. J'ai été aussi interprète dans des campagnes d'évangélisation avec Leighton Ford et Billy Graham dans les campagnes d'évangélisation à Fort Lauderdale en 85 et aussi comme président de Mission Québec avec Billy Graham en 90 au Forum de Montréal et aussi Yolande et moi comme équipe de traducteurs à Toronto et Ottawa dans les campagnes d'évangélisation en 95 et 99. En 2002, c'était la création de la Fondation Nicole Saint-Louis. Combien a entendu dire que notre fille est décédée d'un cancer à l'âge de 24 ans? Et puis, elle était une fille qui était généreuse et qui a donné sa vie au Seigneur, qui est venue même témoigner à la télévision. Vous la voyez, là, sa photo. Vous pouvez taper Nicole Saint-Louis, qui écrit comme ça, là, sur Internet. Vous allez entendre son témoignage quelques semaines avant de mourir. Et puis, on a fondé, c'est-à-dire nos enfants, Alain et France, nos enfants, ont fondé cette fondation pour venir en aide aux étudiants qui se méritent une bourse d'études. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'on a distribué plus de 52 bourses d'études depuis 2002. C'est simplement des dons qui viennent d'ici et là. Il n'y a pas de pression de fait, tout simplement. Vous pouvez aller visiter le site. Et puis, je ne sais pas s'il y en a eu ici. Si vous avez des étudiants dans l'Assemblée, allez sur le site, faites application pour une bourse. Vous pourriez vous mériter. On donne selon l'argent qui entre. Donc, cette année, on en a donné, je pense, 8 bourses. Alors, il y a une année qu'on en a donné peut-être 10 ou 9. Ça dépend des fonds qui entrent. Et c'est Alain, notre fils, et son épouse, Carole, ainsi que notre fille, France, que vous voyez là, qui gère en grande partie la fondation. Mais en conclusion, j'aimerais dire que dans Amos 8, 11, c'est écrit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Oui, le Québec a besoin du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. En 1990, il y avait environ une centaine d'églises chrétiennes évangéliques francophones au Québec. En 1950, le nombre avait chuté à seulement 17 églises francophones. Il a fallu 70 ans pour que les églises reviennent à 101 églises francophones. En 1970, il y avait plus de 350 églises évangéliques en français au Québec. Il doit y en avoir plus maintenant. Il est possible qu'il y ait de nos jours, on n'est pas sûr du chiffre, entre 75 à 100 000 ou plus croyants francophones évangéliques au Québec. Et quand nous sommes sortis de l'école biblique, mon épouse et moi, il était devenu très évident qu'il fallait que l'Évangile soit répandu, puis soit connu, puis que les évangéliques soient visibles. Le Québec est le centre de toutes les activités françaises en Amérique du Nord. Il était devenu très clair que les évangéliques du Québec sont en très grande minorité à comparer avec les autres qui sont bien installés. Il était devenu nécessaire que nous devenions beaucoup plus visibles et audibles pour proclamer l'Évangile du salut sur les ondes de la radio et de la télévision. Ainsi, très tôt dans le ministère, j'ai vu un grand potentiel dans la diffusion de l'Évangile par la radio et la télévision. Et aujourd'hui, en 2011, depuis 1963, par l'intermédiaire de plusieurs stations de radio, nous atteignons Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, nous atteignons des villes comme Moncton, New York, Boston, Miami, la France et l'Haïti. Et toutes ces villes-là proclament le même évangile, la même émission joue partout en même temps dans ces différentes villes. Et présentement, nous exerçons sans relâche nos ministères de prédication et d'enseignants un peu partout dans la province de Québec, à commencer avec l'Assemblée de Longueuil et puis Belleuil, bien entendu, et bien d'autres assemblées et églises un peu partout. Et je vous pose la question ce matin, chers jeunes, chers amis, qui va prendre la relève? Qui va prendre la relève de Michel, puis de Trevor, puis de femmes qui servent le Seigneur, de Yolande, de Fernand, d'autres? Qui vont être là, comme nous étions là après, en 47 et après, hein, plus tard? Qui va être là pour prendre la relève? Êtes-vous cette personne-là? Aimeriez-vous être cette personne-là? Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, dit Paul dans Romains 10, 1. J'aimerais vous donner la même occasion, très brièvement, de dire oui au Seigneur si vous n'avez pas l'assurance de votre salut encore ce matin, de vraiment croire en Jésus. Il est écrit dans la Bible, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Si vous demandez à Jésus de venir dans votre cœur, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il est écrit à ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? Lui, Jésus. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? On parle de la nouvelle naissance. Trois choses. La repentance, premièrement. Se détourner de ce qui ne vous a pas procuré le salut, la paix de Dieu. Et vous tourner vers Jésus. La foi. Vous auriez été la seule personne au monde ici ce matin et le Seigneur serait venu mourir pour vous. Il s'agit de venir, par exemple. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voulez-vous ce matin venir au Sauveur qui vous aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire, « Oui, j'ai entendu la voix de Dieu me parler et je veux venir à lui. » Et pour vous aider, nous avons ce verset, le Seigneur dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Vous pourriez faire une prière sincère et sérieuse, telle que celle-ci. Vous pouvez la faire maintenant, « Seigneur Jésus, moi aussi, je veux croire en toi. Je veux me détourner de ce qui ne m'a pas donné la paix et l'assurance de mon salut. Je me détourne de ma vie passée, de mon péché. Je veux me tourner vers une personne vivante et authentique, le Seigneur Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon sauveur. Je crois que ton sang versé à la croix me purifie de tout péché. Merci, Jésus, pour cette nouvelle vie. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci.